7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, rendre justice aux enfants, est-ce une équation impossible ? C'est en tout cas un débat de société sur lequel les citoyens ont presque tous un avis dans tous les pays du monde. Cette semaine, nous diffusions d'ailleurs un long reportage sur la réinsertion des enfants soldats devenus adultes en Ouganda, à la fois victimes et coupables de crimes. En France, les mineurs sont plus souvent victimes de maltraitance que délinquants. Enfants battus ou violés, mineurs isolés sur la route des migrations. Alors comment a évolué la justice des enfants en France ? Le droit peut-il faire progresser la société ? Un magistrat a dédié toute sa carrière à la cause des enfants. Bonjour Jean-Pierre Rosenzweig.
Bonjour.
Vous avez été entre autres président du tribunal pour enfants de Bobigny en Seine-Saint-Denis pendant 22 ans et vous venez de publier votre tout dernier ouvrage « Rendre justice aux enfants » aux éditions du Seuil. Avec nous également Martine Brousse, bonjour.
Bonjour.
Vous venez souvent dans cette émission, notamment pour parler de la maltraitance faite aux enfants parce que vous présidez La Voix de l'Enfant, une des associations très impliquées dans la lutte contre la maltraitance et qui se porte d'ailleurs souvent partie civile dans des procès de parents violents. Vous nous direz si l'opinion publique est aujourd'hui davantage prête à se mobiliser pour protéger les enfants, notamment par rapport à la cause animalière, par exemple, je le dis sans ironie. Et quant à vous, les voisins, dites-nous où en est la protection des enfants chez vous, y compris les enfants de la rue, pourquoi pas. Vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 71 71. C'est aussi un numéro de téléphone WhatsApp sur lequel vous pouvez laisser des messages audio.
7 milliards de voisins.
Ouais, 7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Bonjour, 7 milliards de voisins. Moi, c'est Alun Sag. Bon, chez nous, ici à Saint-Louis du Sénégal, les enfants sont très bien protégés. Je ne dis pas super bien protégés, mais très bien protégés parce que, bon, que ce soit à l'intérieur de la maison, que ce soit dans la rue, chaque enfant de l'autre est pris comme son propre enfant. Quand tu vois l'enfant est en train de faire quelque chose qui n'est pas normal, ou bien qui est en train de subir des choses qui ne sont pas normales, toi-même qui n'es pas son parent, toi-même qui n'es pas son proche, tu vas lui prendre en charge, tu vas t'en occuper de lui et tu vas lui éduquer, que ce soit dans la rue ou bien même dans sa propre toit. Merci beaucoup.
Voilà, merci en tout cas à ce message d'Alioun qui envoyait ça de Saint-Louis du Sénégal, qui est pas une grosse ville. Hein, c'est probablement moins vrai ce contrôle de la société sur tous les enfants du quartier avec l'urbanisation massive en Afrique. Et puis si c'était vraiment le cas, est-ce qu'il y aurait encore des talibés aujourd'hui au Sénégal? Je ne sais pas, mais est-ce que, Jean-Pierre Rosenzweig, il faut compter sur le contrôle de la société pour protéger les enfants?
Oui, bien sûr.
Avant la justice.
Bien sûr, on peut répondre à votre question à deux niveaux. Les situations au quotidien où des gens voient un gamin en train de traverser la rue, il va se mettre en danger, on va le retenir par la main, ou des jeunes qui sont en train de traîner dans le quartier, ou des jeunes qui à 7 ou à 5 ou 6 heures du matin se trouvent dans la rue quand ils devraient pas l'être. Bien sûr, ça doit interpeller, ça doit amener les adultes qui constatent ces situations à dire « il est en danger et je dois intervenir ». Mais on peut aussi entendre la question que vous posez au plan politique, au plan national. Effectivement, vous parliez de la cause animalière à un moment donné, est-ce que notre société se préoccupe autant qu'elle le devrait des enfants? Elle s'en préoccupe plus que par le passé? Elle a encore une marge de progression.
Martine Brousse, néanmoins, dans les pays du Nord européen, c'est assez mal vu de s'immiscer dans la vie des familles, des gamins du quartier qui soit se livrent à des mauvaises actions. Ou... Ça ne se fait pas de réprimander un enfant qui n'est pas le sien?
Vous savez bien, on lave son linge sale en famille. Hein, donc c'est vrai que notre ami sénégalais a présenté une image un peu idyllique de l'enfance et de la protection de l'enfance au Sénégal et comme dans d'autres pays. Mais c'est vrai qu'aussi dans ces pays du Sud, hein, la famille élargie compte énormément. Et c'est sans doute ce que nous avons perdu chez nous. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de faits de maltraitance sont dus aussi à une grande solitude, à des difficultés affectives, psychologiques, et donc de ne pas avoir ce
recours. N'osent pas frapper à la porte quand ils entendent des cris, par exemple.
Qui n'osent pas. Hein. Vous avez l'affaire de Reims où un voisin est mis en examen alors qu'il savait ce qui se passait. qui est inquiétant, c'est que d'autres n'ont pas été mis en examen aussi, qui connaissaient les faits. Enfin, au moins, qui pouvaient avoir à connaître des faits. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une société, en tous les cas en France, qui se replie sur elle-même. Hein, on a eu une société qui était dans une démarche collective pour le mieux-être des autres. Et aujourd'hui, on a une société qui est plus, qui se referme sur elle-même, tout en s'engageant quand même, mais plus à titre individuel et dans une recherche plus personnelle que collective.
Alors justement, parlons des enfants migrants, mineurs isolés, non accompagnés. Jean-Pierre Rosenzweig, vous avez vécu, vous, les premières arrivées d'enfants migrants via les zones d'attente à Roissy dans les années 90.
Oh, même avant, les enfants qui sortaient des ateliers clandestins. Où on fabrique nos chemises et nos chemisiers qu'on
enfants
achète.
Enfants chinois à l'époque.
Les enfants chinois, oui. Ça a commencé comme ça. Enfin, l'émergence de cette problématique a commencé. Alors après, il y a eu effectivement les enfants qui étaient en zone d'attente. Après, il y a eu ce que j'appelle les enfants de la passerelle, puisque le tribunal est relié à la ville par une passerelle et venaient, en sortant du métro, tous ces gamins qui arrivaient de partout et qui venaient vers le tribunal de Bobigny. Et les choses se sont complexifiées. Alors, pour répondre à votre question, oui, on a vu petit à petit monter en puissance ce nombre de jeunes, d'enfants qu'on appelle aujourd'hui mineurs non accompagnés. On en avait quelques dizaines à un moment donné. Aujourd'hui, au plan national, 17 000 sont reconnus comme étant mineurs. Beaucoup prétendent qu'ils sont mineurs. Hein, sur les 50 000 qu'ils se prétendent, certains prétendent et n'ont pas été reconnus. En tout cas, il y a une pression très forte sud-nord qui est posée en France, mais à l'Europe. Il faut dire que ce n'est pas un problème français, c'est un problème européen. Il faut dire que ce n'est pas un problème européen, c'est un problème en Amérique, entre le Sud et le Nord, et c'est aussi un problème en Australie. Ce n'est pas le problème seulement de la France et de Bobigny.
C'est ce que j'allais vous poser comme question. Quel est votre regard sur à la fois les déchirements de l'Europe face aux arrivées de mineurs non accompagnés, mais aussi à ce qui s'est passé aux États-Unis récemment?
On est tous choqués par la manière dont l'Europe se comporte, qui prétend porter des valeurs humanistes et qui, malheureusement, on l'avait dit il y a des années, est d'abord une Europe économique avant d'être une Europe des hommes. Donc effectivement, ce qu'on a mis dans le tuyau ressort du tuyau. C'est d'abord une Europe économique et ce n'est pas une Europe
mais
politique.
Mais avec des pays qui ont tous signé, ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant.
Tout à fait.
Sauf les États-Unis.
Pour l'Europe, je parlais bien de l'Europe là.
Oui.
On est bien...
Et avec aussi des pays qui ont ratifié les instruments européens, mais qui viennent pour toucher les chèques, mais qui n'appliquent pas les politiques sociales qu'ils devraient appliquer. Alors pour revenir à notre préoccupation française, parce que comme citoyen, on peut avoir une vision internationale, mais comme professionnel, on est préoccupé de ces situations. Quasiment tous les départements de France sont impactés par l'arrivée en masse de ces mineurs non accompagnés. Je laisse de côté la question des filières. Mais quelque part, il y a un enjeu économique majeur. Il ne faut pas être, ingénu. Derrière, il y a des gens qui font beaucoup d'argent sur ces dispositifs. D'où l'importance qu'il y ait des dispositifs publics qui empêchent ces trafics d'enfants. Donc la question qui nous est posée depuis 15 ans, est-ce que ces enfants sont en danger? Et nous avons considéré, et personne ne nous a véritablement démenti, que quelqu'un qui est mineur et qui est tout seul en France est en situation de non-protection, donc doit être protégé.
Et
donc il relève du juge pour enfants.
Que devrait faire l'État français pour respecter le droit international vis-à-vis des enfants mineurs?
Il y a ce que doit faire l'État français, mais c'est aussi ce que doivent faire les départements. Et ce que doivent faire l'un et l'autre et ensemble. Et on s'est battu déjà pendant 10 ans pour amener à reconnaître que ce n'était pas une responsabilité des seuls départements, mais que c'était aussi des responsabilités de l'État. Et que l'État surveille les frontières. C'est l'État qui donne les titres de séjour, les titres de travail. C'est l'État qui va, bien sûr, distribuer la nationalité quand il le faut. C'est l'État qui s'occupe des personnes qui sont sans domicile fixe. C'est l'État qui s'occupe globalement des personnes en danger. Mais les départements, ce sont ceux qui mettent en place les politiques d'accueil. Donc c'est pas l'un ou c'est l'autre. Donc il faut notamment que l'infrastructure départementale de protection de l'enfance fonctionne, mais que l'État assume le coût économique de ces jeunes. Ce ne sont pas les enfants de la Seine-Saint-Denis, ce ne sont pas les enfants de Marseille, ce sont des enfants de France. J'ajoute qu'ils ont tous vocation. Ils ne repartiront pas.
Vous dites dans votre livre que ce coût, il est minime par rapport au coût total de l'aide sociale à l'enfance.
Toutes choses confondues, oui, l'aide sociale à l'enfance, on ne va pas entrer dans les chiffres pour nos auditeurs, mais c'est environ 8 milliards d'euros. Les mineurs étrangers isolés, c'est, nous dit-on, j'en doute de ce chiffre, 1 milliard, mais en tout cas, on va donner un autre chiffre. 17 000 mineurs étrangers sont accueillis en France, quand 140 000 enfants de chez nous le sont. Donc, par définition, le poids des mineurs étrangers...
C'est 140 000 enfants de chez nous, comme vous dites, ce sont des enfants qui sont
nés en France.
Voilà, qui ont des problèmes dans leur famille et qui sont donc dirigés vers l'aide sociale à l'enfance.
Voilà. Donc, oui, il y a une réalité économique de la présence des mineurs étrangers. Et effectivement, les départements ont raison de tirer un signal d'alarme, mais c'est à la hauteur de ce que la France peut faire et c'est à l'État de mettre les moyens nécessaires. Alors, l'État a décidé d'augmenter sa contribution. Il payait, j'allais dire, 5 fois 250 euros, ce qui est peanuts. Désormais, il va payer 500 euros le premier jour, il va payer 90 euros les 13 jours suivants, et après, il va payer 20 euros par jour. Comment peut-on prendre en charge quelqu'un avec 20 euros par jour? Donc l'État est très, très, très loin du compte.
Concernant les États-Unis et la politique de tolérance zéro de Donald Trump, les manifestations pour dénoncer la séparation des enfants de leurs parents, la grande mobilisation dans les médias, le gouvernement qui a finalement fait marche arrière partiellement. Avec le recul, vous, comment vous analysez la position des États-Unis qui n'ont jamais ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant? Pour quelles raisons? Peut-être le rappel, ça sera utile. Et comment vous voyez la position des États-Unis qui, par ailleurs, est un pays qui a beaucoup fait pour la protection de l'enfance?
Oui, mais on va même aller plus loin. Les États-Unis qui, encore il y a peu... explicitement, aujourd'hui un petit peu moins, mais était le gendarme du monde, le garant des libertés, de la démocratie, enfin j'en passe, et des meilleurs. Alors, les réponses à vos questions, elles sont dans vos questions. Les États-Unis n'ont jamais ratifié la Convention internationale sur les droits de l'enfant.
Mais pourquoi ?
Pourquoi ? Alors, pour une raison technique. C'est qu'ils estiment que la Convention touche au statut civil des enfants, et que le statut civil des enfants relève de chacun des États. En réalité, les États-Unis ne ratifient quasiment jamais aucune Convention internationale. Ils font ratifier par les autres. Mais ils ne ratifient pas. Dans la période la plus moderne, ils ont eu peur que ratifiant telle ou telle convention, leurs hommes politiques, mais aussi leurs ressortissants, leurs citoyens, puissent être traduits devant des juridictions. Et les États-Unis ne veulent pas que des ressortissants américains soient jugés par des juridictions.
On évoque le fait que la Convention internationale des droits de l'enfant, évidemment, interdit la peine de mort pour les mineurs, la condamnation à vie sur les mineurs.
Il a fallu attendre 2005 seulement pour que les États-Unis renoncent à appliquer la peine de mort à des jeunes de 16 à 18 ans. Il a fallu attendre 2012 ou 2015, sauf erreur de ma part, pour que les États-Unis renoncent à la perpétuité pour les enfants. Pour être honnête, disons que la France y a renoncé seulement en 2016.
Aujourd'hui, Martine Brousse, il y a des pays modèles pour la protection de l'enfance.
Moi, je voudrais juste déjà revenir sur la partie des États-Unis. Il faut quand même souligner que c'est une politique de M. Trump. Je ne suis pas sûr que des présidents, le précédent, auraient pris une telle décision. Qu'actuellement, l'actualité nous montre, enfin les informations que nous recueillons nous montrent qu'un certain nombre d'États sommes le président du rapprochement le plus rapide des enfants et des familles. Donc voilà, je ne voudrais pas qu'on porte un jugement sur les Américains en tant que tels, même si c'est eux. Je rappelle quand même que M. Trump n'est passé avec moins de voix que Mme Clinton, hein, donc c'est un autre mode aussi de fonctionnement. Et moi, pour moi, la honte, hein, c'est qu'en 79-80, il y avait l'île de Lumière qui repêchait les victimes du Vietnam et du Cambodge, et qu'aujourd'hui, la France repousse les bateaux qui pourraient arriver dans leur port. Pourquoi ce changement soudain, alors qu'au contraire, on a les moyens d'accueillir, certes en organisant, comme le dit Jean-Pierre, combien d'enfants mineurs, 10 000, 12 000, 13 000, il y a combien de communes en France? Ça ne ferait même pas un enfant par commune. Hein, il ne faut pas les séparer, donc même deux par commune. Vous vous rendez compte du nombre d'enfants? Pourquoi dans les années 84 et autres, on a pu accueillir des mineurs pour les protéger?
Et sans état d'âme.
Et sans aucun état d'âme. Mmh. Hein, et
donc, pourquoi aujourd'hui... Vous savez bien que les répartitions territoriales sont beaucoup plus compliquées que ce que vous dites, puisque d'abord, les migrants demandent à être dans de grands centres urbains pour pouvoir
non.
trouver de la solidarité,
Nous sommes présents,
etc.
La Voix de l'Enfant, une de ces associations qui a été présente pendant toute la jungle, puisqu'elle était en charge et des conteneurs et de l'espace Jules Ferry à Calais, qu'aujourd'hui, ils accueillent des mineurs isolés qui arrivent toujours à Calais. Ça se passe très bien. Hein. C'est après des accords qui se font entre eux, comme vient de le souligner Jean-Pierre, entre l'État et le département. L'insertion de ces jeunes, il leur faut un temps, mais se passe très bien. Donc aujourd'hui, il faut véritablement qu'on parte, et c'est un mal français, d'oublier ce qui se passe bien, hein, et de prendre ça comme bonne pratique et expérience, et de voir si on peut le démultiplier ailleurs. Hein. On n'en parle pas, et c'est grâce à vous, vous dites l'opinion publique, la mobilisation, mais cette mobilisation, on l'a grâce à vous, les journalistes. Hein, et je crois qu'il faut qu'on continue, parce que c'est aussi comme ça qu'on fera bouger les autorités gouvernementales pour obtenir un accueil. Par rapport aux mineurs isolés, ce que je voulais dire aussi, hein, ce qu'il faut que la France ait une politique de coopération pour qu'on établisse des états civils. Il y a des millions d'enfants sans état civil qui sont d'abord la proie la plus facile pour tous les trafiquants, les tortionnaires et pédophiles. Et donc, c'est vrai que la voix de l'enfant...
Actuellement... Là, vous parlez d'établir des états civils pour des migrants, des enfants migrants non accompagnés qui arrivent sur le sol français
pays.
Ou dans les
dans pays d'origine.
Ça, c'est un combat qui est largement porté, notamment par l'UNICEF, par les organisations internationales.
C'est pas si porté que ça. Je crois qu'il faut être honnête.
Un combat de longue haleine, on est allé, nous, plusieurs fois sur le continent africain pour faire des émissions sur le sujet.
Quand vous allez dans une république démocratique du Congo et autres, vous vous apercevez qu'il y a des milliers d'enfants qui naissent et qui grandissent sans état civil.
Avec des audiences foraines qui peuvent délivrer
ça serait un moyen aussi de mieux protéger l'enfant quand il, ou le mineur, en tous les cas, quand il arrivera.
Je voudrais que... Oui, Jean-Pierre Rosenzweig.
Je vais dire pour être optimiste. L'autre jour, il y a 2 ans, je le raconte dans le bouquin, je suis allé à l'école nationale de magistrature. Je n'étais plus persona non grata pour parler de la délinquance dans le métro. Et je suis interpellé sur le quai du métro par un jeune black. Il n'y a pas que des grands blacks, il y a des jeunes moyens blacks. Et qui me dit, vous êtes monsieur Rosenzweig, oui, vous êtes le président national pour enfants de Bobby. Bon, non pas je me méfiais, mais je me demandais de quoi il s'agissait. Mais je lui dis, pourquoi vous me dites ça? Il dit, parce que c'est grâce à vous que j'ai fait ma nationalité française. Bon, là, j'étais rassuré, c'était positif. Et on continue à marcher sur le quai et à monter les marches. Et on arrive devant la préfecture de police. Mais il dit, alors, il me raconte son histoire. Hein. J'étais, je crois, sénégalais. Les policiers m'ont arrêté. J'étais squatteur. Les policiers m'ont arrêté. On m'a emmené dans votre cabinet. Vous m'avez pris en charge avec un éducateur. J'ai été pris en charge par les sociales enfance. Et j'ai fait ma nationalité. Je vous la fais très, très courte. Et on arrive en haut des quais, du quai, devant la préfecture de police. Je lui dis, mais à propos, jeune homme, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Il dit, moi, je suis policier. En d'autres termes, de quelqu'un qui était dans l'illégalité, la République française en avait fait quelqu'un qui était porteur de sa loi. C'est pour répondre à votre question, est-ce qu'on doit être optimiste? Oui, on doit être optimiste, on peut faire des choses. Mais il faut mobiliser les moyens. Et comme le dit Martine, encore mieux si on les mobilise en prévention. Parce que c'est tout le débat, nous, on est là pour réparer. Mais tout ce qu'on dit à travers la voix de l'enfance, que j'ai dans mon livre, ce que nous faisons depuis des années, c'est d'à partir des dérapages que nous avons constatés, on essaye de dire aux politiques, il y a des politiques de prévention à mettre en place. L'identité, c'est essentiel. La responsabilité parentale, c'est essentiel.
Et la sortie à 18 ans, vous savez qu'actuellement, hein, les mesures qui sont prises, c'est qu'à 18 ans, un enfant qui a grandi à l'aide sociale à l'enfance...
Il est livré à lui-même, il n'y a plus
de prise en charge. Enfin, c'est dans un pays comme la France, comment pouvons-nous accepter cela?
Alors justement, on va parler de la maltraitance et des violences sexuelles. Quelle politique de prévention, quel rôle aussi pour la justice, pour les associations que vous représentez, Martine Brousse. Et bien sûr, vous pouvez nous appeler, les voisins et les voisines. Donc on parle de la protection des enfants, de la justice des enfants, mais aussi on parlera de la délinquance juvénile et des sanctions judiciaires. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71, c'est un numéro de téléphone WhatsApp.
Got those eyes staring to my soul. You get that smile when I'm giving you my all. You're the brighter side of things, you're the lighter side of life, and all the joy that you bring is why I need you in my life. But can I call you home? You'll be mine and I'll be yours. I just wanna you know, in my mind I call you home. In my mind I call you home. The only thing ever new is that I'll never know. I've had my time in the sun and now I gotta go. You're the brighter side of things, you're the lighter side of life, and all the joy that you bring is why I need you in my life. But can I call you home? You'll be mine and I'll be yours. I just wanna let you know, in my mind I call you home. In my
Kelvin Jones chez 7 milliards de voisins. On est en direct, Call You Home, et nous discutons avec Jean-Pierre Rosenzweig qui publie Rendre justice aux enfants, ancien magistrat, ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny, et Martine Brousse, présidente de l'association La Voix de l'Enfant. Nous parlons de cette justice pour les enfants. Nous évoquions le sort des enfants migrants non accompagnés qui arrivent en Europe ou aux États-Unis lorsqu'ils sont séparés de leur famille. Il nous faut aussi parler de la maltraitance et des violences sexuelles. Rien que pour l'année 2016, 19 700 plaintes pour violences sexuelles sur mineurs enregistrées en France. Jean-Pierre Rosenzweig, vous n'êtes pas du tout que négatif dans le récit de la façon dont la justice a évolué en France. Vous dites que on a fait énormément de progrès pour recueillir la parole de l'enfant. Notamment dans les techniques, via les policiers et les magistrats.
Il y a ça, mais aussi, et Martine me confirmera dans ce que je vais dire, il a fallu attendre quand même les années 80, le travail de Pierre Strauss, avec l'Association française de recherche sur l'enfance maltraitée, pour que la France se réveille sur la maltraitance enfant, la maltraitance physique, la maltraitance sexuelle, la maltraitance psychologique, et on a été, nous, les témoins, les acteurs de l'évolution de nos textes, et on y est pour beaucoup dans les lois de 89, notamment, et d'autres textes qui ont pu être publiés. La loi de 98 aussi, qui permet de protéger les enfants en France, mais aussi les prédateurs sexuels français qui vont à l'étranger. Et on y est, Martine et moi, pour beaucoup. Alors, c'est à moi pour maintenant, pour répondre à votre question. Ben oui, tout le monde a été interpellé au niveau du vécu, comme diraient les travailleurs sociaux, les magistrats, les procureurs, les juges pour enfants, les juges d'instruction, mais aussi les policiers. Et des gens comme Carole Mariage, Thierry Thérobe, Agif sur Yvette, ont, par leur observation d'abord, par leur technique ensuite, mis en place des protocoles pour mieux entendre les enfants. Alors on s'est aussi nourri de ce qui était fait au Québec. La procédure Mélanie, l'enregistrement des premières auditions.
Mais, par exemple, Carole... sur le fait qu'il ne faut pas multiplier les auditions
d'abord,
d'enfants.
Ne pas multiplier. Il faut aussi les enregistrer pour avoir la preuve de ce qui s'est passé.
Ça ajoute au traumatisme de l'enfant ?
Oui, bien sûr. Parce que, dernière chose, des détails importants. Avec qui parler ? L'interlocuteur. Et Carole Mariage et Thierry Thérault ont été très bons en disant on ne va pas dire a priori comment il faut faire. Laissons l'enfant choisir son
partenaire. Là, vous parlez des policiers. Hein,
oui, pour les policiers.
Les premiers interlocuteurs,
oui, c'est important.
Et qui recueillent la parole
parce,
de l'enfant en tout premier lieu.
Parce que s'il la recueille mal, ou s'il la, mal sur le fond, il se trompe, ou s'il la recueille mal techniquement, c'est toute l'affaire qui va ensuite, excusez-moi, va foirer. Il ne tiendra pas. Donc ce temps est un temps important. C'est un temps important pour la justice, mais c'est un temps important pour l'enfant. Si l'enfant a le sentiment qu'il a parlé pour rien et qu'on lui fait répéter 10 fois la même chose, par définition, il va craquer. Or, c'est comme des gamins qui ont été, dans tous les sens du terme, maltraités et qui pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, regardez ces gens qui actuellement ont 40, 50 ans, et qui admettent qu'ils ont été maltraités quand ils étaient mômes. Donc c'est quand même pas, c'est pas une petite plaisanterie la maltraitance enfant. Ça se règle pas par prenez une douche et puis le viol est terminé. Souvenez-vous de ce qu'on disait dans les années 80 aux femmes qui étaient violées. Une bonne douche et c'est terminé. C'est plus compliqué que ça.
Martine Brousse, sur ces techniques de recueil de la parole de l'enfant, oui. On sait aujourd'hui qu'il ne faut donc pas multiplier les auditions. Aussi, également, ce qu'explique Jean-Pierre Rosenzweig dans son livre, parce que l'enfant peut avoir tendance aussi à modifier sa déposition en fonction de là où il sent que l'adulte va davantage appuyer sur un point ou sur un autre.
Mais je pense que La Voix de l'Enfant est l'association en France qui a initié dans le cadre de la loi d'il y a 20 ans, dite loi Guigou, du 17 juin 1998, où il y a la partie justement de la prise en charge des délinquants sexuels et de la protection de mineurs victimes de violences sexuelles, La Voix de l'Enfant a initié les unités d'accueil médico-judiciaire. Comment pouvons-nous encore accepter en France qu'un enfant qui fait des révélations, soit de mauvais traitements physiques, soit de violences sexuelles, soit amené dans un commissariat de police ou une gendarmerie et pris en charge par la plupart des policiers ou gendarmes qui ne sont pas formés, car il faut le dire, dernièrement nous avons fait une formation dans une région de France sur 24 gendarmes, il y en avait 4 de formés, alors qu'ils font tous les jours des auditions. Donc ces unités, on a choisi l'hôpital. Pourquoi ? Parce que l'enfant, il est en souffrance. Alors, cet outil qu'on a mis en place des unités d'accueil, où on enregistre la parole de l'enfant, où l'enfant vient, on est en train d'en mettre même dans un pays africain.
La réalité aujourd'hui, sur les 19 700 plaintes pour violences sexuelles sur mineurs enregistrées en 2016, il y en a combien qui vont se faire pas dans un commissariat classique avec des policiers?
Mais les trois quarts sont dans les polices. Oui. C'est pour ça que les trois quarts sont classés. Quand j'entends hier un magistrat me dire, je ne dirai pas dans quelle juridiction, 80% des révélations sont classées. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui encore...
80% des révélations classées, ça veut dire quoi? 80% des plaintes de mineurs pour violences sexuelles ne vont pas déboucher sur une plainte en justice?
80%.
Pourquoi ?
Parce que estime qu'il n'y a pas suffisamment d'informations.
Parce que c'est mal recueilli.
Parce qu'ils n'ont pas gratté.
C'est mal recueilli. Il faut prendre l'enfant. L'enfant, il est en souffrance.
Donc, c'est-à-dire qu'un enfant qui dépose une plainte dans un commissariat, on imagine déjà la démarche qui est extrêmement difficile. Dans 80% des cas, il n'y a pas de suite.
Il n'y a pas de suite parce qu'il n'y a pas assez d'éléments.
Il n'est pas reconnu en tant que victime.
Il n'y a pas assez d'éléments. Donc, il repart. Non seulement, il n'est pas. Sa parole
n'est pas encourageant, ça, pour les mineurs.
N'est pas prise en compte. Et en plus, il repart sans être considéré comme victime. Les unités permettent ça. Les unités, même si l'affaire est classée sans suite, l'enfant pourra être accompagné dans des soins après.
Alors, ça, c'est quand ça se passe.
Vous avez raison d'avoir un constat critique, mais nous sommes des militants. Le constat critique ne nous paralyse pas. C'est pas pour reprendre votre phrase. Un enfant qui va au commissariat risque effectivement de voir sa parole non véritablement prise en compte. Est-ce que pour autant ça doit dissuader les enfants de le faire ? Non. Je vais même plus loin, et Martine va me confirmer. Il faut dire à tous les enfants que nous rencontrons et qui pensent qu'ils n'ont pas le droit de porter plainte, qu'ils sont légitimes de porter plainte, n'importe quelle personne.
Et qui ne sont pas responsables.
Oui, n'importe quelle personne est en droit de porter plainte au commissariat, à la gendarmerie, sur les faits dont il prétend avoir été la victime. À la police, à la gendarmerie, de faire son boulot. Et Martine a raison de dire, comment faire son boulot quand on ne connaît pas la loi et quand on est mal préparé. Je vous donne une anecdote que je raconte encore dans le bouquin. J'ai vu une gamine de 17 ans et demi aller au commissariat pour porter plainte sur des violences sexuelles qu'elle avait subies quelques années plus tôt à l'aide sociale à l'enfance. Elle est arrivée avec des scories sur les bras.
Des scarifications sur les bras.
Sur les bras, excusez-moi.
Les policiers se disent, elle est folle,
voilà,
c'est
elle
ça
elle est folle.
Hystérique.
On a fini. Et surtout, ils lui ont dit, c'est ça le point important par rapport à notre échange. Vous avez moins de 18 ans, vous ne pouvez venir porter plainte qu'avec vos parents. Et comment voulez-vous que je porte plainte ? Avec mon père qui m'a rejeté et ma mère qui me tient pour une pute. Pour parler très crûment à nos auditeurs. Finalement, on a réussi à faire en sorte qu'elle soit accompagnée, qu'elle ait porté plainte. Dans les quelques semaines qu'on suivit, donc, l'auteur a été retrouvé et a reconnu le fait.
Très important de recueillir la parole de l'enfant, y compris s'il n'est pas accompagné de ses parents.
Et il a le droit de porter plainte. Je parle du droit français. Pour nos auditeurs, je ne ferais pas semer la confusion. Mais dans notre législation, dans la dynamique de la Convention internationale, toute personne a le droit de dire « mes droits n'ont pas été respectés ». Et en l'espèce, en portant
plainte. Récemment, en France, plusieurs affaires ont ému l'opinion publique. On était en pleine affaire Weinstein. Un adulte ayant une relation sexuelle avec une petite fille de 11 ans, ça a été qualifié d'atteinte sexuelle et non de viol. Alors déjà, pourquoi ce débat surgit maintenant, alors qu'il y a eu dans le passé, j'imagine, de nombreuses affaires similaires ? Pourquoi ça a été monté en épingle ? Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? La France a adopté un texte sur les violences sexuelles et sexistes. Qu'en est-il des enfants dans l'article 2 ? Où est-ce qu'on en est exactement ? Alors,
d'abord, la France n'a pas encore adopté. L'Assemblée nationale...
C'est le Sénat.
L'Assemblée nationale a adopté. L'affaire arrive au Sénat le 4 juillet avec un texte qui est légèrement différent de celui de l'Assemblée nationale. Allez, on ne va pas entrer pour nos auditeurs dans le détail, mais le texte n'a pas encore été adopté. Alors, effectivement, ce texte, il est difficile à comprendre. Beaucoup de journalistes disent à Martine, j'y comprends rien à ce texte. Comment voulez-vous, si des journalistes ne comprennent pas, que l'opinion publique comprenne ? C'est un texte très touffu. C'est un texte qui n'est ni fait ni à faire. Et puis, c'est surtout pas un texte qui envoie un message fort que nous attendions au mois de novembre-décembre, après les deux affaires dont vous avez parlé. Nous attendions qu'il soit dit publiquement, de manière très claire, celui qui a des relations sexuelles, quelles qu'en soient les raisons, quel que soit le contexte, avec quelqu'un qui a moins de 15 ans, est un criminel. Et doit,
il n'y a pas donc pour bon, vous, il n'y a pas de consentement possible voilà. Mais, jusqu'à 15 ans.
On n'est pas. Oui, mais on quitte le consentement.
Vous dites
pose,
même jusqu'à 13 ans. On pose la en dessous de 13 ans, il ne peut pas y avoir de consentement possible.
On pose la question de l'interdit. Un adulte.
Il faut que ça soit
n'a pas
une question symbolique.
Attends, voilà, c'est un adulte n'a pas à avoir une relation sexuelle avec un enfant. Le débat sur le consentement est un débat pour permettre à des prédateurs de ne pas être condamnés. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé à Pontoise, ce qui s'est passé à Meaux. À Meaux, c'est pire que ça. Ce monsieur s'en est sorti, acquitté. Il n'a même pas été condamné pour atteinte sexuelle.
Et dans l'autre cas, 5 ans de prison
non, 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 l'autre, non, c'est pas jugé. Dans l'autre encore, cas, c'est pas encore jugé.
Il y a une demande de requalification.
Quand c'est qualifié d'atteinte sexuelle et non viol, c'est-à-dire que c'est passible de...
Aujourd'hui,
pour un mineur,
5 ans,
moins de
15
ans, 10 ans.
5 ans,
5 ans
bon. Et demain, 10 ans à la proposition.
Nous
sommes partie civile dans les deux affaires. Donc, on a vu comment le montage avait été fait.
Ouais.
Et notre crainte par rapport, et Jean-Pierre confirmera ou pas, notre crainte par rapport au texte actuel, c'est qu'il laisse de nouveau... c'est beaucoup trop large et ça va laisser encore aux magistrats de décider comment les magistrats ont pu penser qu'une petite fille de 11 ans,
et
nous l'avons vu puisque
nous
sommes partie
civile. Et les jurés populaires,
jury populaire aux assises de Melun.
Mais à l'heure actuelle, un procureur peut prouver que la victime était consentante à moins de 15 ans ou
pas ?
Il va prouver qu'il n'y a pas eu de menace, qu'il n'y a pas eu de surprise, qu'il n'y a pas eu de contrainte et qu'il n'y a pas eu violence. À partir du moment où il n'y en a pas au moins un des quatre, il n'y a pas eu viol. Elle était consentante.
C'est très difficile.
Et vous dites, il faut enlever tous ces facteurs à partir du moment où l'enfant a moins de 15 ans, il est violé quoi qu'il arrive.
C'est très difficile. Ne vous laissez pas, même si c'est notre sujet, mais il faut élargir légèrement, prendre par le débat sur les enfants. D'une manière générale, c'est très difficile de prouver un viol, sauf à y assister. Par définition, le monsieur vient dire « elle était consentante ». C'est pas seulement pour les enfants. Nous disons pour les enfants, sortons-nous de ce piège du débat sur le consentement et on pose l'interdit aux 20h à la télévision. Tous les auditeurs doivent savoir que celui qui touche à un gosse de moins de 15 ans, il est un criminel et il ira en prison. Point.
Et ça serait une avancée aussi pour l'inceste. C'est-à-dire qu'on pose un interdit dans les familles qui aujourd'hui, la plupart des situations d'inceste sont correctionnalisées.
Mais parce que ça va aussi plus vite, la justice est plus rapide.
C'est le risque que nous avons.
Au tribunal correctionnel qu'aux assises.
C'est le risque que nous avons.
Il faut 3 ans.
Dans ce texte, il veut créer un nouveau tribunal.
Les avocats incitent les victimes aussi à aller en correctionnel pour que ce soit jugé plus vite.
Vous avez raison. C'est un argument qui est avancé. Il est contesté par certains. Mais il y a deux niveaux. Le divan, nous sommes sur le niveau symbolique. Pour une raison qui est politique. Pour une raison qui est très simple. Non seulement il faut protéger les enfants d'aujourd'hui, mais on se bat pour les enfants de demain. Pas seulement pour ceux qui ont été violés, pour que de nouveaux ne soient pas violés.
Et la lisibilité de l'interdit pour l'opinion publique, pour les citoyens.
On peut l'expliquer en 20 secondes à la télé. Après, c'est une autre question de savoir si les procédures actuelles doivent être gérées en correctionnel ou devant le tribunal, devant la cour d'assises. Mais ça, c'est de la technique. Nous, on est sur le principe.
Je voudrais qu'on dise un mot tout de même de la maltraitance des enfants dans leur famille. Est-ce que la justice doit encore progresser ou bien maintenant, le problème vient avant tout du repérage dans les familles, du côté des services sociaux. Où est-ce qu'on en est, Martine Brousse ?
C'est un tout. Je pense qu'on ne peut pas dire plus services sociaux, justice.
Est-ce que les condamnations sont assez lourdes ?
C'est pas une question de condamnation. Le problème de la France, c'est qu'on n'a pas de politique de prévention. À partir du moment où on n'a pas de politique de prévention, on n'a pas de politique de repérage. On n'a pas de politique d'accompagnement de l'enfant. Et je parle de l'accompagnement de l'enfant, car quand j'entends encore dans un colloque la semaine dernière, 4 principes. Le premier, c'est maintien de l'enfant dans sa famille. Le deuxième, c'est que la famille adhère au projet de l'enfant. Le troisième, c'est le respect des croyances religieuses. Et le quatrième, c'est l'intérêt de l'enfant. La dernière loi de Laurence Rossignol et des sénateurs, députés et autres du gouvernement, c'est article 1, les droits fondamentaux de l'enfant. Aujourd'hui, les mentalités n'ont pas encore évolué. Et les dernières affaires que nous avons vues avec des morts d'enfants, il y en a une qui date de quelques semaines. Il y a un dysfonctionnement de la part des services sociaux et il y a un dysfonctionnement de la part du juge des enfants. C'est-à-dire que le juge des enfants, au lieu de demander à la limite une contre-enquête, s'est appuyé sur l'enquête qu'avait, n'a pas tenu compte du diagnostic des médecins qui ont alerté, qui ont dit leur inquiétude, et l'enfant est mort. Et ça, je crois qu'il va vraiment falloir travailler en pluridisciplinarité et que les gens apprennent véritablement à partager l'information.
Mais Jean-Pierre Rosenzweig, vous trouvez que la France est un pays qui place trop ou pas assez les enfants dans des familles d'accueil quand ils sont en danger dans leur famille?
La famille d'accueil, c'est qu'un instrument. Là, vous avez un bic à la main, vous pourriez avoir un Mont Blanc. C'est pas le bic et le Mont Blanc qui va écrire, c'est ce que vous avez dans votre tête. Le placement familial, ce n'est qu'un dispositif au service d'une stratégie. Et c'est ce que nous disons, il faut avoir une stratégie à long terme pour l'enfant. Séparation des parents, retour avec les parents, prise en charge dans une famille d'accueil, prise en charge dans une institution. C'est adapté pour tel enfant, ça ne sera pas pour l'autre. Pour répondre à votre question initiale, oui, il y a un problème de repérage en France des situations. Il y a trop d'enfants qui souffrent en famille ou en institution, parce que la violence n'est pas que familiale, sans que les pouvoirs publics ne le sachent. Martine a raison, la prévention n'est pas à la hauteur de ce qui devrait être fait. Ce n'est pas depuis aujourd'hui. 1976, rapport du Conseil économique et social qui vient dire que la santé scolaire, le service social scolaire, la psychiatrie infantile, et maintenant on pourrait rajouter la protection maternelle et infantile, sont sinistrées. S'il n'y a pas de services sociaux auprès des gens, il y aura de la souffrance et on ne pourra pas repérer les situations. Donc, un des enjeux premiers, c'est de repérer les situations. Maintenant, pour répondre politiquement à votre question...
C'est pour les services sociaux, mais pour les magistrats.
Oui, ils font partie des services sociaux. Mais attendez, une dernière chose pour répondre à votre question. La France est incapable, c'est important pour nos auditeurs étrangers, la France est incapable, qui s'identifie comme la patrie des droits de l'homme, d'être le 28e pays du Conseil de l'Europe à venir condamner les châtiments corporels. La loi qui a été votée en décembre 2016 a été annulée en janvier 2017.
L'interdiction de la fessée ?
Oui, non, mais d'une manière générale.
C'est le débat.
Oui, mais ça, c'est une approche journalistique. Moi, c'est sur l'approche de fond. C'est les châtiments corporels. Et le débat qui a été posé, c'est celui de la violence, de l'éducation sans violence. Est-ce qu'on peut éduquer son gosse sans le battre ? Oui. Est-ce qu'on doit vivre avec sa femme sans la battre? Oui, et réciproquement.
Vous restez avec nous, Jean-Pierre Rosenzweig, Martine Brousse. Les droits de l'enfant ont longtemps été vus comme une menace aussi à l'autorité des adultes, à l'ordre établi, confère la violence familiale et la banale fessée. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Et qu'en est-il de la délinquance et de la violence des enfants? On en discute, ce sera juste après Arat Kilo.
Jealousy, rather be chilling with the family happily. Check for me, living on a mountain peak easily. Wanna be cooking with a cousin in Tennessee. Never be lagging cause I'm wanna be simply. Coming free for the people, that much you know we need. Fallacy, probably, possible, logically, a matter of the battle, we about to. Too low. Roger Moore, 007, Harm Connery, on the beat, president wannabe. Gotta be party steed just for the money, see. More to be happily distracted by fantasy. Gotta be after we finish the masterpiece. Dancing me, nastily, finally grabbing me. Radically, got the studio.
Chez 7 milliards de voisins, vous êtes en direct sur RFI et nous parlons de la justice pour les enfants, y compris lorsqu'ils sont délinquants. On a beaucoup parlé de maltraitance et d'agression sexuelle sur les mineurs. Je voudrais maintenant qu'on aborde la question de la délinquance avec vous, Jean-Pierre Rosenzweig. Vous êtes ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny en Seine-Saint-Denis. Martine Brousse, vous êtes présidente de l'association La Voix de l'Enfant. Un message de Cédou qui nous écrit d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Voici ce que dit son message à Cédou. Un enfant est bon quand il est utile pour la société, mais si c'est pas le cas, ça devient très compliqué. C'est de notre faute à nous, parents, si des enfants sont en conflit avec la loi. On a l'impression que pour ces enfants, rien n'est fait, malgré les moyens mis en place par l'État. Et bizarrement, on a peur d'appliquer la loi à ces enfants criminels. Certes, ce sont des enfants, mais ils doivent être incarcérés dans des prisons pour enfants. Sinon, à quoi ça sert de les prendre et de les relâcher le même jour? Un policier pourrait écrire la même chose. Si ce n'est pas les encourager dans leur barbarie, ils ne sauront pas ce qu'est un délit tant qu'ils ne subiront pas la loi. C'est un message pour vous, magistrat Jean-Pierre Rosenzweig.
Je suis d'accord sur la première partie du message. Les enfants sont délinquants parce qu'il y a une carence éducative. Hein. C'est le discours que nous tenons depuis 1912, rectifié 1945 en France. En revanche, je ne suis pas d'accord avec la méthode de la schlag de la violence. Si on croit qu'on peut dresser un enfant par la prison, on sait tous que la prison est criminogène. Non, ce dont ont besoin ces gosses, notamment les enfants microbes, que je connais bien parce que j'ai travaillé pour le compte de l'UNICEF, l'Union Européenne et l'UNICEF en Côte d'Ivoire. J'ai même contribué avec Pierre Verdier à réécrire ou à proposer une réécriture à leur demande du code civil et du code pénal ivoirien. Donc j'aimerais bien que nos travaux puissent déboucher. En tout cas, ce que nous disons...
Le message est passé, c'est bon.
Oui, mais ce qu'il faut, c'est garantir aux enfants des adultes qui vont les accompagner, qui vont compenser la carence parentale initiale. C'est sûr que c'est pas facile quand un enfant est microbe, alors 10 microbes, et quand il a vécu dans la rue dans des conditions ignobles.
Agresse les passants avec une grande violence.
Mais je suis allé visiter les centres de détention en Côte d'Ivoire. J'ai regretté de ne pas être Robert Badinter, parce que si j'avais été Robert Badinter, je ne serais pas sorti, et le Premier ministre serait venu et aurait rectifié le tir.
Côte d'Ivoire, Madagascar et autres.
Incarcérés dans des conditions ignobles, sans mandat, sans révision de la situation, livrés aux adultes qui sont là, et sur le plan sexuel, pour que tout le monde comprenne, ce sont des conditions de détention qui sont d'une autre époque et d'une autre culture, si vous le voulez. Alors, pour répondre à votre auditeur, oui, il faut un accompagnement éducatif, oui, il faut savoir poser des limites, parce qu'un enfant délinquant est d'abord un enfant en danger, et le premier droit de l'enfant, c'est d'avoir des adultes responsables autour de lui, adultes, parents d'abord, éventuellement travailleurs sociaux ou autres personnes. Et les enfants microbes, c'est l'exemple typique, exacerbé de ce type de situation. Ces gosses ne sont pas nés pour agresser, ces gosses ne sont pas nés pour être délinquants. Nous les avons fait délinquants, c'est une responsabilité de la société que de remonter la pente. Ceci dit, on descend la pente très vite, on la remonte bien plus difficilement.
C'est comme les enfants soldats.
C'est le débat des enfants soldats.
Néanmoins, l'opinion attend que l'on sécurise la société en mettant ses enfants hors d'état de nuire.
Mais on peut mettre. Mais on peut. Mais
on ne peut pas le contester.
On ne peut pas le contester. Mais attendez, j'ai pas dit qu'il fallait laisser faire. J'ai pas dit qu'il fallait tolérer. J'ai pas dit qu'il fallait féliciter. J'ai dit qu'il fallait être présent auprès de ses enfants, ne pas laisser dormir la nuit dans le marché dans des conditions abracadabrantes. Il fallait leur offrir des lieux. Il en est. J'en ai visité en Côte d'Ivoire. Il en est. Des gens qui, en Côte d'Ivoire, font un travail fantastique pour sortir ces gosses. Il faut encourager ces gens, il faut les aider, il faut que l'ensemble de la société s'y mette. Et si on rejoint le débat français, il faut qu'il y ait une politique de prévention aussi qui soit menée.
Alors justement,
mais la répression par l'incarcération est vouée à l'échec. Mais on gagne du temps, mais on résout aucun problème.
Ce qui est aussi très très important, et pour intervenir, puisque nous on intervient dans plus de 103 pays, essentiellement dans des pays du continent africain, c'est l'éducation. Sans éducation, c'est vrai qu'il est difficile, après, d'accompagner ces jeunes. Donc, ce qui est important, c'est de faire que, dès le plus jeune âge, tout enfant ait accès à l'éducation. Et parce qu'un enfant éduqué, c'est un adulte responsable demain. Et je crois que s'il y a un effort à faire dans l'ensemble des pays et d'une politique de coopération, parce que la France s'est engagée, certes, à appliquer la Convention des droits de l'enfant chez elle, mais aussi de donner les moyens qu'elle puisse être appliquée dans les autres pays. Donc, quelle est aujourd'hui notre politique de coopération dans les pays, essentiellement sur la scolarisation des enfants ?
La question qui revient tout le temps en France, c'est pour ça que le message de Sédou à Abidjan, il pourrait tout à fait être largement partagé en France, la justice des enfants est-elle laxiste en France ? Alors évidemment, c'est une question vraiment pour vous, Jean-Pierre Rosenzweig, puisque toute votre carrière, vous avez essuyé des accusations de juges laxistes.
Oui, de la part des politiques, mais pas de la part au tribunal, j'étais considéré comme le plus sévère. Une remarque générale, la délinquance baisse aujourd'hui, la délinquance des mineurs baisse, j'ai pas vu le moindre homme politique le dire, alors que la répression augmente. En moins, le Monde l'a encore démontré il y a quelques temps, sur les 2 ans qui viennent de s'écouler, il y a eu une augmentation des incarcérations de 15%. Au jour, au moment où nous parlons, 850 mineurs sont incarcérés quand il y en avait 700 il y a 2 ou 3 ans. Alors maintenant, est-ce que la loi est laxiste ?
C'est-à-dire qu'en fait, vous expliquez bien dans votre livre, il y a un taux de réponse pénale, judiciaire, qui est dans 90% des cas. Dès qu'un gamin a fait quelque chose,
95% des cas.
La justice se met en branle.
Dès qu'un gamin a fait quelque chose et a été interpellé. N'oubliez pas ce petit détail, il y a aussi un problème policier. Or, le taux d'efficacité de la police reste de moins de 30%. Le problème n'est pas judiciaire, le problème est policier. Avant que la justice et les travailleurs sociaux fassent leur boulot, encore faut-il qu'on interpelle l'auteur. Tant qu'il n'a pas été interpellé, c'est le même débat sur la violence à enfants.
Les policiers vont répondre que quand ils interpellent, de toute façon, les gamins sont relâchés.
Non, ça c'est faux.
Ils
sont relâchés, bien évidemment, puisqu'on nous dit de ne pas les mettre en tôle. Mais dire qu'ils sont relâchés ne veut pas dire qu'ils repartent sans rien. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que veulent les policiers ? Qu'on mette un stick sur la poitrine de chaque enfant en disant « a été pris en charge par tel juge pour enfant, tel éducateur le suit, etc. » C'est ce que les Américains font pour les violeurs sexuels dans certains pays. Dire qu'on ne voit rien ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Il n'y a aucun gosse. Je vais prendre un exemple très concret que je décris dans le bouquin. Quand un gamin m'était présenté pour me dire, et en me disant à 8h, à 9h du matin, il est mêlé à une histoire de trafic de drogue, je disais aux éducateurs, c'est clair, il ne rentre pas chez lui ce soir. Soit il va en tôle, parce qu'il a besoin d'aller en tôle au regard de ce qu'il a fait, soit il est à 50 bornes et il ne rentre pas chez lui. Alors, je ne peux pas supporter l'accusation de laxisme, mais qui voudrait dire que les magistrats de la République, j'allais dire, se désintéressent de la délinquance juvénile. C'est faux. C'est faux. Pas plus les magistrats, pas plus que les travailleurs sociaux. En revanche, la question qui est posée, c'est comment un éducateur peut suivre 25 gosses ? Pourquoi des mesures ne sont pas exécutées au bout de 3 mois ou au bout de 6 mois ? Le juge prononce une décision en présence des parents. Les parents sont contents qu'on prenne une décision d'accompagnement éducatif de leur gosse. Le gosse finit par l'accepter, l'avocat est d'accord et la mesure ne sera pas exercée pendant 3 mois. Venir parler de laxisme
c'est
des juges,
c'est de
l'incompétence. C'est
le cas, par exemple, pour les peines de réparation ou pas
Les mesures de réparation, oui, mais nous les avons fait monter. Aujourd'hui, on dit il y a des mesures de réparation parce qu'on s'est battu il y a 30 ans pour les monter. On est venu dire.
Mais elles ne sont pas suffisamment suivies, vérifiées, contrôlées,
les
ces peines
mesures
de réparation.
Par rapport à plein
juste
d'autres
en deux
mesures.
Qu'est-ce que c'est une peine de réparation pour un mineur qui a, agressé un vol de sac à main
vous avez raison, on ne met pas en place des mesures de réparation pour n'importe quoi. S'il s'agit de violence physique ou s'il s'agit de violence sexuelle, bien sûr, on ne sera pas dans le registre de la réparation. La réparation, généralement, c'est dans les infractions contre les biens, mais des agressions légères. Alors ça consiste effectivement à avoir une certaine attitude, à faire un certain nombre de choses. Ça peut être présenter des excuses. C'est pas évident de présenter des excuses pour un ado qui a agressé quelqu'un. Il faut s'y préparer. Et puis il faut lui faire comprendre que les excuses, elles peuvent être présentées, elles peuvent ne pas être acceptées. C'est aussi réparer très concrètement. Tu vas prendre un exemple très concret.
Des dégradations de biens publics.
Des gamins qui étaient pro-OM, donc l'Olympique de Marseille, et qui, j'allais dire, voient une boutique du Paris Saint-Germain à Paris et vont taguer. Je leur ai dit, vous avez fait ça pendant le week-end, mais le week-end suivant. seul ou avec vos parents, vous allez aller me nettoyer cette vitrine.
Nous, ils ont une inscription quasi judiciaire.
En tant qu'association, on ne l'a pas vu souvent. Non, mais, ça, hein. On le réclame, mais on ne l'a pas vu souvent.
C'est-à-dire
et les parents, les parents nous disent, qui peut nous aider à faire que notre enfant aille jusqu'au bout de... Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse aussi en France, c'est le sens de la peine. Hein, je pense que tant qu'on n'aura pas reposé ça, quel sens de la peine ? Parce qu'on parle de ces mineurs délinquants avec des actes délictueux et autres, mais il y a une délinquance aujourd'hui qui est de plus en plus forte, qui est celle de mineurs entre mineurs. Hein. Et là, on a quand même une difficulté dans les réponses.
Hein, avec des enfants qui deviennent délinquants aussi de manière plus violente.
Alors ça, c'est la caractéristique des 20 ou 30 dernières années, c'est qu'il y a plus souvent la violence associés aux actes de délinquance. Pour dire les choses très simplement, l'essentiel de la délinquance des mineurs reste une délinquance d'appropriation. Mais dans le passé, lorsque, j'allais dire, on se contentait la nuit de couper, de cisailler un cadenas et pour prendre la voiture, le vélo, aujourd'hui, on n'hésite pas à arracher le sac à main. Donc il y a une infraction matérielle, le vol. Mais il y a souvent la violence qui est associée. Bien sûr, je ne parle pas des violences sexuelles, des violences physiques et des autres agressions qui peuvent se passer. C'est la caractéristique de la période. Mais constat, les gosses, ils sont à notre image. Est-ce que nous, les adultes, nous sommes moins violents qu'il y a 20 ou 30 ans ? Quand on voit deux automobilistes capables de se tuer pour un problème de parking, on peut se dire que les gosses, ils sont à notre aune. D'une manière générale, nos enfants sont notre reflet. Oui, ils sont plus violents, parce que nous sommes plus violents.
Vous préférez parler de responsabilité des adultes plutôt que d'autorité ?
Oui.
C'est votre cas aussi, Martine Brousse,
aujourd'hui ? Ah, complètement. Nous, on parle responsabilité et on ne parle pas répression ou autre, on parle éducation.
Dans la responsabilité, il peut y avoir de l'autorité aussi ou...
Ah, tout à fait.
Mais c'est même légal.
Mais il ne peut y avoir que responsabilité et autorité que si on pratique, en quelque sorte. On ne peut pas dire à des jeunes, comme on le voit trop souvent, j'étais le week-end dernier sur un grand terrain de foot pour un grand tournoi où il n'y avait que des mineurs. Hein, jusqu'à 15 ans. Hein. Et quand vous voyez que les coachs qui sont là fument, c'est vrai que moi, je me suis permise de les interpeller en disant « Mais comment vous pouvez après dire aux jeunes qu'ils ne doivent pas fumer ?» C'est un petit exemple, hein, mais ça date du week-end dernier. Bon, donc, je pense, comme la violence, c'est pareil. À partir du moment où des adultes sont violents sur les terrains de foot, comment voulez-vous que nos jeunes ne soient pas violents ? Et à l'intérieur, et sur les terrains de foot, et à l'extérieur.
Jean-Pierre Rosenzweig, on arrive au terme de cette émission. Vous avez raconté, et surtout, ça nous permet de mieux appréhender l'avenir et où en est la France aujourd'hui pour sa réponse judiciaire dans sa façon de protéger les mineurs, mais aussi de les sanctionner. Est-ce que vous avez aujourd'hui un regret est-ce qu'il y a un regret qui poursuit toujours un juge à la retraite ou pas, d'ailleurs ?
Ah non, comme juge, non. Non, non, comme juge, non. Je croise encore des gens qui viennent me dire, tiens, j'ai croisé l'autre jour un jeune homme qui me dit, je suis encore délinquant, mais c'est vous qui vous êtes occupé de moi. Alors j'ai essayé de gratter avec lui, mais il m'a dit non, je ne veux pas vous en parler. Non, j'ai pas de regrets. Moi, je suis un magistrat engagé et un citoyen politique. Oui, j'ai trois regrets. Le premier regret, pour rejoindre votre dernier sujet, c'est qu'on n'aurait pas réussi à passer de l'autorité à la responsabilité parentale. J'ai un autre regret, c'est qu'on n'ait pas mis du social dans les établissements scolaires. Là, oui, ce sont des regrets. J'ai un autre regret, c'est qu'on n'ait pas mis des éducateurs dans la rue pour développer la prévention spécialisée quand une partie de la jeunesse de France ne reconnaît pas la République de France. Oui, j'ai des regrets politiques.
Merci à vous, en tout cas, Jean-Pierre Rosenzweig. Martine Brousse, je vous en prie.
Pardon, je voudrais dire, mais comme je sais que Jean-Pierre partage ça, nous avons un regret, là je dis nous, de ne plus avoir un ministère de l'enfance.
Ce qui veut dire que l'enfance n'est plus un objet politique.
Mmh. Voilà, mais les associations, en tout cas de protection de l'enfance, sont toujours aussi actives et vous venez régulièrement dans cette émission, Martine Brousse.
Et je vous en remercie et bonjour à tous nos amis de l'autre bout du monde.
Merci à tous les deux. Jean-Pierre Rosenzweig, vous signez Rendre justice aux enfants, un juge témoigne. C'est publié aux éditions du Seuil. Et merci à vous, Martine Brousse, présidente de l'association La Voix de l'Enfant. Merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Marion Goubard. N'oubliez pas que vous pouvez écoutez toutes nos émissions sur l'appli RFI, Pure Radio, rubrique magazine et bien sûr nous retrouver sur les réseaux sociaux. Je vous dis à demain et merci à vous tous de votre fidélité, les voisins et les voisines.